Et tout cela,
Française, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf?
La République, c'est moi, c'est moi.
Alors un nouveau quoi de neuf un peu particulier et on va vous expliquer pourquoi. Alors Jean-Pierre Foubert et
Olivier Nuttall
n'ont pas d'invités aujourd'hui. Depuis le début de l'année, ils ont fait le tour le plus complet possible de la préparation aux élections européennes prévues le dimanche 26 mai 2019 dans notre pays, enfin en métropole. Ça sera un petit peu plus tôt pour certains départements et territoires d'outre-mer. Mais la campagne pour ces élections, a vraiment débuté. Et dès lors que nous n'avons pas les moyens de donner la parole de façon équitable à l'ensemble des listes, ou du moins aux principales listes, faut pas oublier qu'il y a presque 40 listes pour cette élection, Jean-Pierre, c'est quand même énorme. Alors nous ferons plutôt une revue des effectifs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écrit à tous les médias en France. Comme vous le savez, l'élection des représentants français au Parlement européen aura lieu, il le précise à nouveau, le 25 et 26 mai 2019. Dans ce cadre, le CSA a adopté le 27 mars 2019, donc très récemment, une recommandation que nous avons reçue, qui vient compléter la délibération du 4 janvier 2011 applicable aux services de radio et de télévision en période électorale. Ça, ils avaient décidé d'encadrer un peu ces périodes électorales. Cette recommandation s'applique à l'ensemble des services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion. Donc, c'était à compter du 15 avril et jusqu'à la date des élections. Alors, ben voilà, Jean-Pierre, on va un peu refaire un petit peu qui on a reçu, puis après, on va parler de ces listes et de cette élection. Alors Jean-Pierre, on est ensemble, on est tous les deux autour de cette table. D'habitude, nous avons toujours du monde qui nous accompagne, souvent une personne, voire plusieurs. Alors, si vous voulez bien, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait d'abord du mois de janvier à ce 15 avril, avant le départ officiel de la campagne pour les élections européennes. Alors, on avait commencé en janvier avec Xavier de Rolin, qui est le président du mouvement européen pour l'Hérault, qui a été suivi par Laurent Pradey, le président de la Maison de l'Europe à Montpellier. On peut dire qu'on avait commencé de façon généraliste, même pédagogique sur l'Europe. C'est ça, Jean-Pierre,
hein? Oui, tout à fait.
On avait reçu ces gens pour qu'ils nous expliquent un peu leur vision de l'Europe. Ce sont des pro-européens convaincus, l'un comme l'autre. Ils défendent l'idée de l'Europe, peut-être pas celle qui existe, mais ils ont vraiment envie que cette Europe vive. Donc, ils étaient là pour nous expliquer, il faut aller voter, engagez-vous, peu importe pour qui, mais faites quelque chose. Ensuite, toujours au mois de janvier, nous avons reçu une députée européenne, c'est Virginie Rosière, donc Virginie Rosière qui représente les radicaux de gauche. Hein, oui. C'est ça, hein, Jean-Pierre, qui est une députée qui est très active, on peut dire, sur le plan européen. C'est elle, par exemple, qui s'est occupée des lanceurs d'alerte, entre autres. Hein, elle a fait une proposition de loi là-dessus. Et donc, Virginie Rosière était venue discuter de son rôle de députée européen et le fait qu'elle se représentait, d'ailleurs, aux élections européennes. Puis après, on a eu toujours dans les députés européens, Éric Andrieu. Alors Éric Andrieu est membre du Parti Socialiste, Jean-Pierre, hein, c'est ça, hein?
Oui, et rapporteur de la PAC.
Alors oui, un spécialiste de la politique agricole commune. Il était venu nous dire sa passion pour l'Europe et sa volonté, lui aussi, de se représenter, je crois, aux ces élections. Ensuite, nous avons eu Guillaume Crosse, qui est le vice-président du Conseil régional d'Occitanie. C'est un vert, EELV, lui aussi candidat.
Lui aussi candidat, oui.
Donc, vous voyez, on avait déjà reçu pas mal de gens. Puis, dans les députés européens, nous avions eu la députée française au Parlement européen, cadre du Rassemblement national France Jamais. Alors, qui est, paraît-il, en tête des sondages, des intentions de vote. On en parlera, si vous voulez, tout à l'heure, quand on fera le tour un peu de ces listes. Donc, France Jamais était venue. Donc, trois députés européens se sont succédés à notre micro pendant le mois de janvier et février. Au mois de mars, on avait reçu Jean-Luc Bou, candidat pour le Parti communiste européen et conseiller municipal de la ville de Sète. Vous en souvenez, c'est un monsieur qui n'avait pas tout à fait l'habitude de venir parler beaucoup dans les médias. Il nous a fait le plaisir de venir nous expliquer son engagement et pourquoi le Parti communiste français avait une liste. Enfin, pas une liste en son nom d'ailleurs, hein, comme beaucoup d'autres listes, vous avez remarqué, il ne se présente pas PCF, Parti socialiste, etc. Hein. Souvent, ils donnent un nom à leur rassemblement et ils font partie d'un rassemblement.
Avancerait-il masqué ?
Ah, peut-être, c'est possible. Ensuite, nous avons eu Lewis Marchand, délégué de la 5e circonscription des Républicains, donc les Républicains 34, et qui lui aussi est sur la liste européenne pour les Républicains. Il représente le département de l'Hérault dans cette liste. Donc, là aussi, encore une liste très différente, conduite donc par les Républicains. La France insoumise est venu. Et alors là, avec quelqu'un qui est dans les tout premiers sur la liste, hein, puisqu'il s'agit de Pascal Le Néouanic, qui est candidate pour la France insoumise aux élections européennes en position éligible, hein, on peut dire.
Ouais, elle est en 13e position, si mon souvenir est bon.
Bon, là, on verra. Évidemment, les élections sont les élections, on verra bien. Et ensuite, on a reçu les gens de Génération.S. Alors, là aussi, ils vont dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas eux vraiment, ils représentent une liste. Hein. C'était Myriam, Bui-Siang, et aussi un jeune homme qui s'appelle Damien Robinet, qui est référent des jeunes générations pour l'Hérault. Ils ont fait une liste, on va dire, amoniste.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est l'ancien candidat du Parti Socialiste aux élections, enfin, qui avait gagné les primaires et qui était candidat aux élections présidentielles, la dernière présidentielle. Et enfin, on avait terminé cette série de rencontres avec ces gens qui se présentaient par Irène Tolleret, qui est conseillère départementale. On la place divers gauche parce qu'on ne sait pas très bien où la placer, c'est ce qu'elle nous a dit, et qui, elle, est sur la liste, donc là aussi, une liste de rassemblement, mais on peut dire que c'est la liste Renaissance, c'est plutôt La République En Marche.
Tout à fait, elle est, je crois, 8e ou 9e sur la liste.
Là aussi, donc, alors là, vraiment en position d'être élu. Alors, oui, on s'excuse auprès de tous les autres qu'on n'a pas pu recevoir, parce qu'ils sont tellement nombreux. On a fait ce qu'on a pu, on a essayé d'être le plus divers possible. Alors, pour les quelques-uns qui n'ont pas été reçus, ils auront l'occasion peut-être, après les élections, de venir nous donner leurs opinions. Mais on ne peut pas recevoir tout le monde, comme je disais, surtout en période vraiment de campagne. On n'a pas le droit. Tout simplement. Ou alors il faudrait minuter, ça serait d'une extrême complication pour une petite radio associative de catégorie A comme la nôtre, c'est quasiment mission impossible.
Et puis avec 40 listes actuellement potentielles, ça voudrait dire qu'il faudrait accorder une minute à chacun.
Oui, ça serait très réducteur.
Une minute 30, ce qui serait effectivement très réducteur.
Et vous avez vu d'ailleurs nos confrères des grandes télévisions nationales qui ont tenté d'organiser un premier débat, c'était un petit peu quand même très peu de temps de parole pour les candidats.
Oui, puis ça, on sait très bien, mais on en reparlera tout à l'heure, on sait très bien qu'il y a les élections européennes, il y a l'envoyé des députés au Parlement européen, oui. Et puis il y a le fond de la campagne qui...
très national.
Oui, et qui va se transformer sans doute pour un certain nombre de listes en plébiscite ou en campagne contre la politique gouvernementale ou contre la politique de tel ou tel, ou par rapport à la victoire de tel ou tel dans d'autres pays, etc., etc. On va voir.
On peut faire juste une toute petite parenthèse avant de se plonger dans cette pléthore de listes. De listes, hein, c'est incroyable, il y en a une quarantaine. On peut faire une petite parenthèse puisque c'était les résultats des élections législatives en Espagne.
Oui, c'est intéressant parce que même si depuis 1975, c'est date de la mort de Franco, la droite, l'extrême droite plus exactement, n'était pas représentée au Parlement, au Cortès, mais, mais effectivement, là, ils rentrent et ils font 10% des voix.
C'est énorme, hein, Vox, oui, hein, Vox, c'est le nom de ce permis.
Ça leur permet, avec le système de représentation au Cortès, d'avoir une vingtaine de...
23, d'après ce que crois aux dernières nouvelles, à peu près.
Donc effectivement, c'est un poids non négligeable, et on sait très bien si ça n'est pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes circonstances, etc. Mais je me souviens que quand François Mitterrand avait introduit
la proportionnelle,
il y avait eu effectivement un nombre assez important de députés du Front National de l'époque, hein, et qui effectivement avaient joué un rôle non négligeable dans les prises de parole et les positions au sein de l'Assemblée nationale.
Et c'est ce qu'on a reproché à François Mitterrand, puisque ça avait donné la parole nationale, au niveau national, dans la représentation nationale à ce parti, le Front National de l'époque, et ça a permis de, peut-être de ces idées se répandre beaucoup plus facilement. Alors Vox, c'est une surprise en Espagne, parce que, comme vous disiez très justement, l'extrême droite avait disparu avec la mort du Caudillo. Et maintenant, ils refont leur apparition, et surtout, ils sont en position de force dans certaines provinces autonomes. Hein. Faut pas, on en pense à l'Andalousie, par exemple. C'est incroyable quand même que ces gens arrivent aux portes du pouvoir, alors que ce n'était pas du tout le cas en Espagne jusqu'à présent. Pas du tout.
Oui, mais je pense que ce phénomène est assez intéressant à observer parce que il ne correspond pas nécessairement, disons, à la montée traditionnelle des mouvements ultraconservateurs en Europe, mais cette référence qui s'est faite par rapport au Caudillo, enfin Franco, comme l'autre jour cette manifestation qui a eu lieu en Italie, à la gloire de Mussolini, etc. Je pense qu'il y a une radicalisation d'un certain nombre de mouvements d'extrême droite, comme les mouvements identitaires, etc. Nous n'avons pas réinvité Muriel Rességuier, qui est rapporteur d'une commission sur les mouvements d'extrême droite en France, mais ce serait intéressant éventuellement, les élections, de l'interviewer là-dessus.
Muriel Rességuier est la députée au Parlement français de la France insoumise, qui est la députée du Montpellier Centre, on peut dire.
Montpellier Centre, oui, tout à fait.
Voilà. Alors écoutez, cette petite parenthèse sur l'Espagne, on peut conclure quand même deux choses. Le PP, le Parti Populaire, on va dire l'équivalent de nos Républicains, s'est effondré.
Oui, tout à
fait. Et le Parti Socialiste espagnol, contrairement à notre Parti Socialiste, eh ben, il se défend plus que bien puisqu'il arrive largement en tête.
Oui. L'autre mouvement qu'avait compté Flores il y a quelques années, Podemos, ouais. Stagne. Voilà. C'est-à-dire que il ne devient qu'une force d'appoint éventuellement par rapport à un soutien à la gauche. Mais c'est un véritable problème, un petit peu comme
la France Insoumise chez nous.
Oui, France Insoumise ou Tsipras en Grèce, oui. etc. C'est des mouvements qui ont représenté une ouverture. Hein. C'était Indignez-vous de oui. Stéphane Hessel.
Tout à fait, c'est là que c'est parti.
Absolument, mais en même temps, on s'aperçoit que les gens, ou bien sont désabusés vis-à-vis de la politique en général, hein, de la participation politique en général, ou bien ils vont vers des partis populistes et conservateurs. D'ailleurs, juste un chiffre comme ça, les derniers, puis on reparlera mais c'est vrai que quand on voit qu'actuellement, les derniers sondages, disons, anticipent une participation potentielle de 44%, ce qui est vraiment très faible, c'est un des plus faibles enregistrés, y compris pour ces élections. Et surtout, quand on regarde la tranche d'âge 18-25 ans, on s'aperçoit qu'il n'y a que 22% des jeunes, donc entre 18 et 25 ans, qui ont l'intention d'aller voter.
C'est quand même, en effet, un peu dramatique quelque part, c'est-à-dire que... On a beau essayer de faire comprendre que c'est important, ces élections européennes, c'est pas rien. L'institution européenne et le Parlement européen ont des pouvoirs importants, très importants, sur notre vie du quotidien. Mmh. Apparemment, beaucoup de gens se désintéressent. Alors peut-être, Jean-Pierre Foubert, à cause de toutes ces listes. Il y a tellement de listes qu'on s'y perd complètement, c'est possible. Et puis, peut-être que cette jeunesse ne se trouve pas, elle, des représentants qui vraiment lui conviendraient, je ne sais pas.
Oui, je pense que les réformes de la société en général, chez les jeunes qui sont mobilisés, passent plutôt vers les problèmes de l'environnement, de l'écologie. Quelqu'un qui a 20 ans, il se dit, mais quand j'aurai l'âge de mes parents ou de mes grands-parents, que sera devenu la planète, etc. Donc, est-ce que je serai encore là?
Ça, c'est des questions fondamentales qui sont posées tous les vendredis depuis que cette jeune Suédoise a décidé de faire la grève pour exiger qu'on sauve la planète.
Ouais. Hein, mais ça pose un problème presque d'ordre philosophique, c'est-à-dire que s'il y a de moins en moins de gens qui vont voter, est-ce que c'est parce qu'ils considèrent que les partis politiques ne les représentent plus, ou bien tout simplement parce qu'ils ne croient plus en cette forme de démocratie.
Cette forme de politique, oui.
C'est ce qui est un véritable problème, c'est-à-dire ne plus croire à cette démocratie et ne plus y participer, c'est éventuellement remettre en cause son fondement. Et donc, ça pose un véritable problème d'ordre philosophique.
Alors, si vous voulez bien, on se recentre un peu sur ces élections européennes, après avoir fait un petit tour en Espagne, avec rapidement les commentaires. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quand même le nombre de listes. C'est incroyable. Alors écoutez, je vous en cite quelques-unes. Hein. Nous avons le Parti communiste français, le Parti de la gauche européenne et ses alliés, la France insoumise, la gauche républicaine et socialiste, lutte ouvrière, l'éternelle lutte ouvrière qui est toujours là. Et puis on a le Printemps européen de génération, le Parti des Verts européens avec EELV, le Parti socialiste européen qui est maintenant allié avec, vous savez, Place publique de Raphaël Glucksmann, c'est, on va dire, le PS, hein, le PS, etc. Les radicaux de gauche qui ont leur propre liste. Alors là déjà, allez, à la louche, j'ai 8 listes qui se réclament de la gauche. Donc déjà, vous voyez, si vous êtes électeur de gauche, Jean-Pierre, on ne dit pas de pour qui on vote, nous, bien entendu, mais si vous voulez choisir, vous avez 8 listes, c'est quand même énorme.
Oui, quand on sait que pour pouvoir être représenté au Parlement européen, il faut faire 5%.
Et pour être remboursé, 3%.
Et que parmi ces listes, dans les derniers sondages, beaucoup ne figurent pas dans la fourchette au-delà de 5%. Donc ça va leur coûter très cher, peut-être politiquement et en tout cas électoralement, mais en tout cas financièrement.
Alors je continue sur ces listes. Alors... la liste qui représente La République en marche, donc on en a parlé là rapidement, je l'ai placée au centre, mais je ne devrais pas, parce qu'elle n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Donc elle est à part, donc là, c'est Macron et cette liste de grand rassemblement, nous disait Mme Toléré, donc on verra un peu ce qu'elle va faire. A priori, elle sentir son épingle du jeu par rapport à cet effondrement des votants, à mon avis. Hein, probablement, ça sera l'une de celles qui va gagner. Alors, au centre, il y en a plein de listes encore. Hein. Il y a le Mouvement radical social et libéral, il y a l'Union des démocrates et indépendants, il y a Agir, il y a le Parti des démocrates européens, il y a le Parti des alliances des démocrates et des libéraux européens. Et ça fait encore beaucoup de listes, une 6 à peu près, hein, au centre. On passe à la droite rapidement.
Le centre dont Mitterrand disait qu'il n'était
qui n'existe pas.
Ni à gauche ni à gauche.
oui, c'est comme en Espagne. Le parti qui se réclame du centre en Espagne est franchement de droite. Je vais faire des ennemis du côté de l'Espagne. Mais enfin bon, c'est franchement un parti de droite. Et je vois la différence avec le Parti populaire me semble très, très limitée. Bon, alors on voit, donc on a le choix au centre. Bon, il y a la liste quand même de La République en marche, Macron qui est à part, qui tire son épingle du jeu. Dans les listes de gauche, on verra. On verra bien, on verra quels sont les scores qui seront atteints. Et puis après, on a les listes de droite. Ben, c'est un peu pareil. Si vous êtes électeur de droite, Jean-Pierre, vous allez vous retrouver devant un dilemme. Vous avez le choix entre, bon, alors, on va dire, le Parti populaire européen, c'est les Républicains. Il y a l'Alliance des conservateurs et des réformismes européens. Il y a l'Alliance pour la démocratie directe en Europe, les Patriotes. Mmh. Il y a le Mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, c'est le Rassemblement national de Marine Le Pen. Hein. Et il y a l'Alliance pour la paix et la liberté, c'est les comités Jeanne. C'est une déviance de l'ancien Front National. Donc là aussi, on a 5 ou 6 droite, extrême droite. Hein. Vous avez le choix. Hein. Un parti semblerait, selon les sondages, tirer son épingle du jeu, c'est le Rassemblement national. Rassemblement national avec, d'ailleurs, vous avez remarqué, un rajeunissement extraordinaire de ses cadres.
Oui, c'est un phénomène assez intéressant à observer. Il y a une nouvelle génération, trentenaire, et apparemment, dans les responsabilités qui sont données au niveau des partis politiques, c'est sans doute le Front National qui rajeunit le plus ses cadres. D'ailleurs, autre observation, le tête de liste du Parti communiste est jeune, la tête de liste de France Insoumise est jeune, le Front National a un leader, un tête de liste qui est jeune.
Génération donc, aussi, etc. Génération. Il y a beaucoup de jeunes. Hein. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'on parlait des jeunes qui ne vont pas voter, mais on constate aussi à l'inverse beaucoup de jeunes qui s'engagent en politique. C'est un paradoxe. À la fois, beaucoup de jeunes disent « moi, je ne vais pas voter » et beaucoup de jeunes disent « moi, non, au contraire, je m'engage ». Ça, c'est notre avenir, hein, Jean-Pierre, hein, quand même. Hein.
Oui, de toute façon,
Si on reste qu'entre vieux...
mais ce sont ceux qui ont 20 ans qui ont l'avenir devant eux. Nous, Olivier et moi, si tu es plus jeune, notre avenir est aux trois quarts derrière nous.
Oui, bah alors donc, place aux jeunes et dans les partis politique et Surtout qu'ils n'oublient pas d'aller voter de temps en temps, ou du moins qu'ils créent leur propre parti en disant qu'ils ne veulent pas aller voter, mais qu'ils s'expriment.
Mais peut-être aussi parce qu'ils pensent que la place est bonne et que finalement...
les jeunes
hein, parce que leur jeunes. Papa ou leur maman, ou plutôt leur papa, vu la féminisation faible du corps élu, peut-être ils ont envie de remplacer leur papa ou leurs grands-parents.
Alors quelques autres listes quand même, toujours alors un peu vraiment marquées un peu à droite, il y a une liste, alors là moi je trouve c'est toujours un paradoxe, une liste royaliste.
Bon, mais rappelez-vous, là c'est bien, on fait faire des petits rappels historiques. Moi je me souviens de Bertrand Renouvin, qui était membre de la Nouvelle Action Française, c'est-à-dire, ça posait quelques problèmes, qui avait appelé à voter d'ailleurs François Mitterrand, ce qui est assez intéressant, mais peut-être des racines retrouvées.
Alors il y a eu des listes aussi, alors, je ne sais pas si elles vont aller au bout toutes ces listes, il y a Allons Enfants. C'est le parti de la jeunesse. Jeunesse, droite, hein, nous sommes bien d'accord. Il y a Civitas, vous vous rappelez la manif pour tous, hein, donc ça aussi, on peut dire que c'est bien droite. Il y a la dissidence française, ce sont des gens qui sont de droite, très à droite, mais qui trouvent que les partis représentants de la droite ne sont pas assez à droite. On va dire ça comme ça. On a plein de choses comme ça. Et puis, il y a aussi des listes comme l'Europe démocratique pour l'espéranto. Bon, vous voyez, la langue européenne. Et puis, il y a les gilets jaunes, dont on ne sait toujours pas s'ils vont faire une liste, deux listes, trois listes, quatre listes ou cinq listes. Ils en avaient présenté cinq, en principe. Apparemment, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas où ils en sont, ces gilets jaunes. À mon avis, vous m'arrêtez si je me trompe, mais les gilets jaunes, ils ne sont pas faits pour faire de la politique. Il ferait mieux de rester dans leur mouvement contestataire, où ils ont très bien réussi à s'exprimer.
Ce qui est assez intéressant, c'est quand on entend les listes plus traditionnelles, elles revendiquent presque toutes le fait d'avoir un gilet jaune.
Ah, ils sont tous gilets jaunes, vous avez remarqué, hein, tout le monde est gilet jaune. Et il y a deux quelque chose qui se met vraiment bien en place avec cette élection, c'est tout le monde est gilet jaune et tout le monde est pour l'écologie. Tout le monde.
Oui,
il n'y a pas une liste qui va se dire non, moi l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça n'existe pas. Tout le monde est à la fois écolo et gilets jaunes. Alors disons, ça va être dur à choisir. Alors il y a je vous en cite quelques-uns des listes. Il y a le parti animaliste. Ah bah oui, il faut bien défendre les petites bêtes. Il y a le parti des citoyens européens, le parti d'égalité de la justice, le parti de la fédération européenne, le parti pirate, le rassemblement des contribuables français. Ça c'est une liste. Rassemblement des contribuables français. Normalement, c'est tout le monde. Hein. On est tous contribuables.
Non. Je crois qu'il y a un foyer fiscal sur deux qui ne paye pas d'impôts.
Ah oui, d'impôts sur le revenu, mais on est tous contribuables. On doit tous payer des impôts, ne serait-ce que la TVA, ne serait-ce qu'on paye tous
des
impôts.
Ah oui, alors il y a les impôts dont personne ne se rend compte.
On est tous des contribuables, hein, à mon avis. Il y a le rassemblement des écologistes encore, décidément, pour le vivant. Il y a le
Vous n'avez pas les écologistes pour les morts ?
Non, mais pour les vivants. Et puis on a d'ailleurs, dans le genre écologiste, on a aussi l'alliance Génération écologique qui ressurgit. Il se présente une liste aussi, hein, vous rappelez M. Wechter.
Voilà. Absolument.
Voilà, bon, voilà. Il y a l'Union populaire républicaine, il y a Volt Europa, et j'en ai certainement oublié, Jean-Pierre.
Oui, c'est un peu effrayant. Je pense, si j'étais méchant, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont présenté des listes comme ça en espérant pouvoir être absorbés pour faire 0,2% de plus par des listes qui auraient besoin de passer la barre des 5%, voire des 3%.
Des 3%, oui.
Donc, etc., etc. Donc il y a, comme disait Dutronc, il y a un certain nombre d'opportunistes.
Ah oui. Et à la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Absolument, oui. Voilà. Tout à fait. Et à la prochaine révolution, j'enlève le bas.
Oui, voilà. Bah, oui, ça, c'est une autre histoire. Bon, écoutez, merci. J'espère que les auditeurs ont pu apprécier ce tour rapide pour ces élections européennes, mais donc sans invité pour les raisons que vous savez. Question d'étiquer. Il faut que ça soit éthique. Ouais. Hein, on ne peut pas représenter tout le monde.
Une remarque un peu perverse, donc j'ai parfois le secret. C'est, je trouve paradoxal, je comprends que sous des prétextes d'équité, non pas d'égalité, mais d'équité, le CSA veille à ce qu'effectivement, il puisse y avoir, que chacun puisse s'exprimer. Mais en même temps, je trouve absolument... intéressant qu'au nom de la démocratie, on empêche les médias de pouvoir s'exprimer.
Ah oui, c'est une remarque qui méritera d'être remontée, qui remontera dans les tuyaux. Allez, merci Jean-Pierre.
Merci,
Olivier. Et puis après,
Olivier.
On va donc faire le tour un peu de nos villes. hein. Absolument. Puisque là, là, ils seront pas encore...
Retournons sur le terrain.
Oui, et puis comme les municipales, c'est en 2020, là, on a le temps, on n'est pas en campagne électorale.
Non, mais nous sommes à moins d'un an.
Et tout cela...
Française, français.
C'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.